RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous prenez la parole avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. Flora Gebali est avec nous aujourd'hui, entreprenant la transition écologique. Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie, et Bruno Poncet, le cheminot. C'est la deuxième heure des GG, des grandes gueules qui démarre. Jean-Luc Mélenchon est un fou furieux à neutraliser d'urgence. Qui dit ça? Arnaud Montebourg. Dans le podcast Orphelina, c'est le podcast de la copine Florent Guébali.
Bien plus qu'un podcast, mais je vais vous raconter tout à l'heure.
Et ça fait un sacré buzz. Est-ce qu'il a raison, Arnaud Montebourg, ou ça va trop loin? Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, qui se retrouve là aujourd'hui en ligne de mire, des critiques. Pourquoi? Parce que des mineurs accusés de crimes seront bientôt libérés. Alors encore, c'est un problème d'administration, de loi, de calendrier. On vous explique tout ça. On va s'intéresser d'abord au gamin de 14 ans, la terreur du canal Saint-Martin, le petit Hamza. On vous a narré ses aventures, vous les avez sans doute vues sur les réseaux sociaux, vous avez vu les images à la télévision, le gamin du canal Saint-Martin, qui importune, qui n'en fait qu'à sa tête, qui est aujourd'hui au centre de toutes les critiques et tout le monde s'étonne qu'il n'ait pas été recadré. Eh bien hier, c'est la maréchaussée qui est venue le chercher.
Oui, on voit que la médiatisation ne profite pas à Hamza. Sans doute des consignes ont été données et donc Hamza se retrouve en garde à vue et on verra d'ailleurs quel sort lui est réservé. En fait, Hamza, c'est l'histoire d'un jeune de 14 ans qui commence par des blagues potaches et qui malheureusement tourne mal. Donc au début, c'était sympathique, le pistolet à eau, etc. Après, il a commencé à racketter les gens. Si tu me donnes pas 1 ou 2 euros, je t'arrose. Il a poussé une femme dans l'eau, il a balancé des chaises, il a bloqué des gens qui étaient dans des toilettes, enfermés dans les toilettes publiques. Il a intercepté des voitures. Et puis là, il est quand même en garde à vue pour vol avec violence, outrage et rébellion. Alors ce qui est étonnant, c'est que quand on se tourne vers ses parents, ses parents le défendent. Il trouve qu'il est gentil, qu'il ne fait de mal à personne, qu'il rigole avec les gens, qu'en plus, maintenant, il est très connu parce que sur les réseaux sociaux, il a relayé ses vidéos et est devenu le petit personnage du quartier. Tout ça a échappé finalement à ses parents, à Hamza lui-même. Et le voilà maintenant en garde à vue. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de Hamza?
Est-ce que c'est normal qu'il soit en garde à vue, Monsieur Jean-Loup, mon ami?
Alors, moi, j'espère qu'il va vite sortir parce que je suis très fan d'Hamza pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, on a vu qu'il avait le talent de la communication et de l'autopromotion avec de l'humour. La deuxième chose, c'est qu'il est le révélateur, je dirais même au sens chimique du terme, de la faillite complète de l'État français. Des problèmes de délinquance des mineurs, d'insécurité, d'incivilité, enfin même plus loin que de l'incivilité, là on parle quand même de vol avec violence et de raquettes. Donc, il est vraiment le révélateur de la faillite complète...
Déjà fait de ses parents pour commencer.
De la faillite complète de l'État sur cette question. Troisièmement, c'est que Hamza, je le félicite, il devrait être reçu au concours de l'agrégation de sciences politiques, c'est qu'il a compris quelque chose que l'État français a oublié. Hamza, son surnom, c'est Hamza la douane. Et il prélève justement un péage, un droit de passage. Parce que Hamza, il a compris que pour tenir un terrain, fallait contrôler qui entre et qui sort. Il fallait des frontières. Et ça, la France l'a complètement oublié. Il n'y a plus de frontières dans le domaine commercial. La mondialisation, le Mercosur, les climatiseurs fabriqués en Chine. Il n'y a plus de frontières dans le domaine migratoire. N'importe qui entre dans le pays. Donc là, Hamza, lui, il a mieux compris que tous ceux qui dirigent la France depuis 30 ans qu'il fallait des frontières pour tenir le terrain. Et enfin, ce que j'aime chez toi, Hamza, ce que j'adore chez toi, c'est que...
Hamza 2027,
c'est que justement, j'ai vu que c'était l'enfer pour les habitants du 10e arrondissement. Ils parlent de souffrance à cause d'Hamza et de sa bande. Mais pour qui ont voté les gens du 10e arrondissement? Oh, j'ai regardé les résultats des municipales. Monsieur Grégoire est arrivé très largement en tête dans le quartier. Donc en fait, Hamza, tu l'as voulu, tu l'as eu. T'assume. Voilà, fallait voter Dati autrement. C'est la conséquence de ce pourquoi tu as voté. Donc, le jeune Emmanuel Hamza...
Grégoire qui a d'ailleurs rencontré Hamza.
Oui.
Il y a eu cette rencontre.
Le jeune Hamza, c'est la némésis qui nous venge de tous les bobos. Parce moi, je souhaite qu'Hamza... Je souhaite qu'Hamza Lasdouane soit dans le quartier tout l'été, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et même toute l'année, et que là, les bobos qui ont voté Grégoire, la valeur de leur immeuble soit divisée par 20. C'est la némésis qui nous venge. Et je vais même aller plus loin.
C'est bon, Jean-Loup, c'est bon.
Hamza, cœur sur toi, mon ref, on me soutient.
Avant, on mettait des alertes tunnel, mais elles ont disparu.
Vu, ouais.
Elles sont parties. Là.
Cœur sur toi, mon ref.
Ça m'a donné envie de faire une sieste.
Bruno.
Je trouve que Hamza, c'est le pur produit de son époque. C'est-à-dire qu'on en a, au début, c'est un gamin qui a arrosé les flics, tout le monde rigolait, il y avait des vidéos de lui. Ensuite, après, bah, évidemment, c'est monté en épingle et après, les gens après ne touchent plus terre. Maintenant, le gamin, il a 14 ans. Faut peut-être arrêter un petit peu.
Peut-être le recadrer un peu.
Ouais, et puis il faut peut-être arrêter de le mettre en épingle parce que c'est un petit garçon de 14 ans, mineur. Donc, ça serait bien qu'on arrête de jouer avec lui.
C'est devenu un animal de foire, en fait.
Bah, voilà.
Et mais c'est lui-même qui l'a voulu.
C'est lui qui s'est posté sur les réseaux.
Il a 14 ans, donc je le consentement, c'est
pas la tête, tu vas pas l'empêcher.
Non, mais là, c'est. Et je suis d'accord. Mais moi, parce que je.
Moi, cousin, tu vas laisser passer tout le monde, tu après, t'auras la parole plus tard.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est lui qui s'est mis en scène sur les réseaux sociaux.
Oui, mais le problème, c'est que moi, je trouve qu'on oublie que c'est un petit garçon de 14 ans.
Remets-toi. À ses parents qu'il faut le dire.
Un petit garçon, c'est un peu exagéré. Il est déjà assez grand.
Non, mais c'est un garçon de 14 ans. Moi, je suis désolé. Il y a la semaine dernière, ou il y a 15 jours, on était en train de pleurer sur des gamins de cet âge-là qui se font tripoter par des adultes. Donc, à un moment donné, rappelons-nous que c'est un garçon de 14 ans. Et qu'à cet âge-là, on peut avoir.
Délinquant, violent, auteur d'actes de raquettes et de vol avec violence.
Le problème, c'est que les parents ne jouent pas leur rôle.
Ben voilà. Et je pense, en plus, les parents trouvent ça drôle que le gamin soit médiatisé. Comme, malheureusement, beaucoup de parents qui déjà après mettent des photos de leur gamin bébé sur les réseaux, qui après trouvent pas normal que le gamin, mon gamin, il a plus d'anonymat. Mais je trouve que vraiment, faisons attention, c'est un garçon de 14 ans. Recadrons-le comme un gamin de 14 ans.
Alors qu'est-ce qu'on fait à la sortie de sa garde à vue, on en fait quoi?
Eh ben à un moment donné tu le recadres un peu, puis t'as des éducateurs hein, pour ça. Ouais. À moins qu'on ait tout dégommé l'éducation.
Est-ce qu'on le met dans un centre éducatif fermé?
Non, on va peut-être détendre un peu, il a tué personne pour l'instant.
Laura.
Je ne crois pas qu'un enfant de 14 ans devrait avoir le droit de faire des vidéos sur les réseaux sociaux pour commencer.
Ni de raqueter des gens.
Bah oui, non, ni de raqueter des gens.
Ni de voler.
Oui, ni de voler avec violence.
Mais c'est un autre débat pour moi, parce qu'on n'a pas à le connaître, ce Hamza. C'est un enfant, il n'a rien fait de spécial à part, d'accord, faire rire les gens.
Il est accusé de faits de délinquance, maintenant.
Non, maintenant, il est accusé de faits de délinquance. Le premier problème dans cette affaire, c'est que les enfants ne doivent ni pouvoir publier ni pouvoir accéder aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un truc d'adulte, parce que on parlait tout à l'heure d'esprit critique. Tant qu'on n'a pas d'esprit critique, on peut pas aller sur les réseaux. Et quand on a 14 ans et qu'on devient la star d'un quartier, c'est évident que ça monte à la tête et que je connais pas ce garçon et je sais pas si depuis le début il était mal intentionné ou si c'est avec tout ça qu'il est devenu mal intentionné. Mais en fait, c'est évident que ça ne lui rend pas service. Et j'apprends à l'instant, Olivier, tu dis qu'Emmanuel Grégoire l'a rencontré.
Oui.
Moi, si j'étais maire de Paris, je ne rencontrerais pas un ado qui se met en scène sur les réseaux.
C'est quoi.
C'est pas bien, c'est pas juste, c'est bien fait pour
tous les électeurs d'Emmanuel Grégoire.
Mais non, mais après, ça n'a rien à voir avec la politique d'Emmanuel Grégoire, qui est une bonne politique et qui lance son mandat de manière très dynamique.
Hashtag périscolaire.
Et le canal Saint-Martin, je peux te dire qu'il a sauvé beaucoup de journées de gens pendant la canicule qui ont pu accéder à la fraîcheur grâce aux décisions de la ville de Paris.
Alors, on va aller dans le 10e.
Ça n'a rien à voir, en fait.
On va aller dans le 10e, retrouver Sonia. Bonjour, Sonia.
Dans le 10e, justement.
Parce que, alors, attendez, écoutez bien, parce que Sonia, vous faites partie des riverains, de ceux qui ont porté plainte contre Hamza, justement.
Oui, tout à fait.
Pour quel motif?
Alors, moi, c'était pour injures et menaces, en fait.
Que s'est-il passé?
En fait, je pour vous expliquer, je suis en situation de handicap et je me prenais. Et il n'était pas seul, il était avec d'autres enfants, mais quand je dis enfant, c'est ma limite 16-17 ans, donc limite début adulte. Quoi.
Ouais.
Et j'ai eu des insultes verbales, des menaces, on va dire qu'il a, enfin, on va dire, ça, voilà, des injures, mais sauf que moi, je peux pas réagir parce que je suis en situation de handicap et on m'a fait une simulation de, pas lui, mais son ami m'a fait une simulation d'agression, en fait, comme un coup de poing. Et c'est pour ça, en fait, c'est pas juste des jets d'eau. Les jets d'eau, j'en ai eu aussi, mais ça, c'est rien. C'est pas que ça, en fait.
Donc, on a une petite bande qui sème un peu la terreur, parce que comme il n'y a pas de limite, personne vient à un moment donné leur dire, bon, ça suffit, c'était rigolo au début, mais maintenant, stop. Ça continue, et ça, si on est un peu dans la surenchère.
Ouais, t'as des vidéos, là, tu vois les policiers jouer au pistolet à eau avec le
canard. Oui, c'était au début.
Ouais,
attendez, je voudrais qu'on reste avec Sonia, s'il vous plaît. Quand est-ce que vous avez porté plainte, Sonia?
Moi, c'était en mai.
D'accord. Et qu'est devenue votre plainte? Que s'est-il passé, alors?
J'ai pas eu de nouvelles. c'est pas une nouvelle. Après, là, à partir de ce moment-là.
Olivier, la dame, elle a porté plainte en mai. Et oui. Hamza, là, avec les flics, c'était il y a 15 jours, 10 jours. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'ils étaient bien au courant qu'en fait, ce gamin-là, il pose problème.
Non, mais la police, ça fait n'importe quoi. Mais la police municipale a fait n'importe quoi, ça, c'est sûr.
On est d'accord.
C'est pas qu'ils ont fait n'importe quoi, c'est qu'ils ont. Moi, j'ai déposé plainte, ils ont pris ma plainte.
Mais là, quand on les voit jouer avec Hamza, ils font n'importe quoi. C'est pas le rôle des policiers de jouer avec un gamin.
Mais Sonia, vous êtes toujours riveraine du quartier, donc c'est allé en s'amplifiant au fil des jours, en fait.
Moi, je sais que ce jour-là, il y a eu plusieurs situations comme la mienne, sauf que moi, je suis en situation de handicap et j'ai eu vraiment très peur parce que, encore une fois, c'était pas que des jets d'eau, mais des insultes et simulations d'agression. Donc, que vous voulez que je fasse, en fait, dans ma situation.
C'était quoi comme insulte, Sonia?
C'était on va te niquer ta race, enfin. C'est
ouais.
Et
simuler
tout comme un coup de poing, enfin c'est
oui, ça vous a fait peur.
Il a parlé, ils sont en train d'agresser un monsieur handicapé dans une voiture.
Ouais.
À un moment donné,
allez-y Sonia, finissez, pardon.
Et c'est pas encore une fois, il y avait des jets d'eau, mais ça à la rigueur, je m'en fous en fait. Mais c'est pas que ça. J'étais pas la seule ce jour-là, parce qu'il y a eu d'autres personnes dans la situation.
Il y avait un ras-le-bol du quartier quand même, si je comprends bien.
C'est
aussi.
C'est surtout que les gens, vous attendez pas à ça de la part d'enfants. Et encore une fois, c'est pas une question d'origine, puisque moi j'ai, on a des origines maghrébines. Enfin, vous voyez ce que je veux dire.
Non, mais ça n'a rien à voir avec l'origine. C'est simplement un gamin qui on laisse tout faire, un peu un enfant roi,
oui,
quoi.
C'est ça. Voilà. Pas de rattrapage politique là-dessus, parce que ça n'a rien à voir. Il y a aussi d'autres enfants.
Sonia, est-ce que vous en voulez justement aux adultes de ne pas avoir réagi?
Oui, moi j'en veux plus aux parents.
Oui.
Parce que lui, effectivement, il n'a que 14 ans. Et encore une fois, je ne vais pas le mettre en victime parce que quand même, j'ai un enfant à peu près de cet âge-là qui ne traîne pas dans la rue et qui est correct avec les adultes. Enfin, c'est la moindre des choses. Comment vous pouvez insulter une femme en situation de handicap qui
est
votre mère déjà? Enfin, ça, j'arrive pas à comprendre. Mmh. Après, je me dis que de toute façon, c'est pas lui le plus responsable, c'est ses parents qui le laissent divaguer toute la journée.
Là, oui.
Alors même, il fait chaud, d'accord. Ils vont jouer, il n'y a pas de souci avec ça. Tout le monde a Internet. Vous voyez votre enfant sur les réseaux, ce qu'il fait, tout ça. Ben, vous intervenez, en fait.
Et si, je pense que si les parents étaient intervenus, on n'en serait pas là et que c'est terminé. Là, voilà.
On focalise sur lui parce que c'est le meneur. C'est
mais il y en a plein d'autres.
Mais autour de lui, ils sont toute une bande. Effectivement, donc là, le fait de l'avoir interpellé, l'avoir mis en garde à vue, il est à souhaiter que ça calme tout le monde. Vous voyez que ça calme toute la petite bande autour, qui est complice, qui met la pagaille aussi, qui filme aussi. Vous voyez, Sonia.
C'est même pas lui qu'il faudrait mettre en garde à vue. En fait, c'est plutôt les parents qui font pas le rôle.
Je suis assez d'accord avec ça.
Et c'est pas le mettre en avant et rire avec lui, c'est pas ça en fait.
Non mais je suis d'accord, mais vous savez quand vous dites ça,
comme un délinquant qui va tuer quelqu'un, c'est pas ça non plus, c'est l'éducation en fait.
Quand vous dites qu'il faut responsabiliser les parents, quitte à les sanctionner, moi j'ai dit ça au début de semaine. J'ai dit qu'en fait le problème c'est les parents et peut-être qu'il fallait les sanctionner, les priver des allocs, les menacer de quelque chose. Visiblement ils ont été convoqués au commissariat, ça n'a rien changé. Donc puis ils continuent à dire mais il est gentil, puis c'est bien, il est connu, etc.
Non,
donc à un moment donné il faut être peut-être un peu plus dur avec les parents.
Oui c'est ça, c'est il incite tous les autres à faire comme
lui. Le problème,
il y a l'effet de bande accentué.
Mais sur cet enfant-là, mais il n'est pas le seul.
Oui, mais c'est ce que je veux dire.
C'est aussi l'effet de groupe. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte.
Bien sûr.
Et c'est surtout le fait que de voir des gamins de cet âge-là toute la journée seuls, en fait.
Cet enfant, il n'est pas mis à sa place du fait qu'il buzz sur les réseaux. C'est-à-dire que adultes qui le croisent dans le 10e doivent lui dire « Oh, Hamza, t'es trop drôle. J'ai rigolé quand j'ai vu ta vidéo. J'ai liké ta vidéo. Je t'adore. » Donc, en fait, l'enfant, il a 14 ans. Et donc là, il se sent certainement surpuissant.
Arrêter de dire l'enfant, c'est un adolescent.
Légalement, c'est un enfant.
Donc,
il a pas, à 14 ans, on n'a pas de consentement, par exemple.
Non, mais un vrai sujet, c'est comment tu veux que les policiers ressentent.
Il a rien à faire dans la rue, mais surtout quand t'es galvanisé par les réseaux sociaux, tu te sens surpuissant et donc tu trouves ça rigolo et donc tu perds le sens du réel. C'est exactement la même chose, toute proportion gardée, que les enfants qui voient des zones de guerre, etc., sur les réseaux, des vidéos, et qui du coup deviennent beaucoup plus violents. Évidemment que, en fait, ils mélangent à leur âge la réalité virtuelle et la réalité tout court.
Merci.
Pourquoi il se met à insulter une dame qui a l'âge de sa mère? C'est une bonne question qu'elle pose.
Sonia, je vous remercie d'avoir été avec nous et de votre témoignage, Sonia. Et je voudrais qu'on écoute Michel qui nous appelle lui aussi de Paris. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Comment vous réagissez,
déjà,
Michel?
Ça va, j'étais déjà passé sur la polémique avec Gilles Lellouche.
Oui, je suis.
Sur Hamza, alors moi j'ai deux versions. D'abord, franchement, c'est scandaleux qu'un gamin de 14 ans fasse la loi. Parce qu'il n'y a pas que les parents et la police, il y a les passants. Enfin, franchement, les hommes qui pèsent tous 80 kilos, il faut pas les taper, j'ai pas dit ça, hein. Mais moi, j'ai vu une vidéo où il attaque une voiture. Enfin, mais moi, j'ai plus de voiture depuis longtemps, mais je serais sorti de la voiture et je l'aurais pas tapé. Mais pourquoi les passants se laissent faire comme ça? Enfin, mais vous savez que Hamza, excusez-moi de le dire, sans racisme, en Afrique, je parle de toute l'Afrique où j'ai vécu, mais il ferait pas ça, je peux vous le dire, il ferait pas ça. Hein.
Deuxièmement, les adultes se laissent tromper.
Disons qu'en Algérie, je pense qu'ils ne s'amuseraient pas à canarder les policiers.
Ça serait vite réglé.
Les policiers jouent avec lui,
c'est pas des policiers, c'est des...
Non, la police nationale, c'est marqué.
Oui, mais c'est des agents d'ambiance, c'est pas des policiers. C'est la police municipale que j'utilise à Paris.
J'ai fait la coopération en Côte d'Ivoire, j'étais professeur. Si je disais par malheur, je disais un mal d'un enfant qui travaillait mal, je ne le disais pas d'ailleurs parce que le soir, il se prenait une sacrée dérouillée. Je peux vous dire que... Et deuxièmement, tout à l'heure, j'ai adoré l'expression de mon ami,
merci.
Il a fait j'ai pensé un jeu de mots avec Talassum. Il a dit, tu assumes, mais moi j'ai pensé Talassum.
Tout à fait.
Voilà. Mais...
Sauf qu'il a honte de rien, justement, le petit Hamza. Alors,
mais là, il va peut-être se rendre compte quand même que les actes ont des conséquences.
Mais les actes ont des conséquences. Le problème, c'est les Parisiens, les Nantais, les Rennais, les Lyonnais qui votent majoritairement pour des candidats qui te disent d'insécurité.
Non, mais tu peux avoir voté Emmanuel Grégoire et ne pas avoir envie d'être emmerdé par un petit peu de temps.
Eh ben, tant pis, Hamza, c'est bien fait pour toi.
Mais oui, mais enfin, c'est pas Emmanuel Grégoire qui est responsable des parents d'Hamza.
Non, mais la police.
Grégoire est responsable de police municipale.
Voilà, c'est la police nationale.
Il y a la nationale, il y a les deux.
Et honnêtement, fallait voter Dati. Voilà, c'est tout.
Bien sûr, une emprise de justice, t'as raison, c'est vachement bien l'exemple.
Vous avez voulu Grégoire, vous assumez.
Elle aurait fait quoi, Dati?
Rachida, tu sais quoi? Elle aurait été sur place, je peux te dire que le petit Hamza l'aurait mis.
Elle l'aurait bien regardé.
Alors ça, parce que c'est une maman. C'est une maman, Dati. Elle aurait été sur place.
Emmanuel, c'est un papa, s'il avait tapé, il a des enfants, malheureusement, sur d'autres sujets, il a fait des clics.
Merci Michel d'avoir été avec nous. Alors,
merci Michel.
Hamza Lado arrêté par la police, est-ce qu'on dit enfin? Vous dites oui, enfin, à quasiment 94%. Avec les GG, avec les grandes gueules, avec Jean-Louis Bonamy, Bruno Poncet et Flora Guebali, on va vous raconter dans un instant un petit vide juridique concernant la justice. Un couac qui tombe mal pour Gérald Darmanin, avec une inaction au ministère de la Justice qui aura peut-être pour conséquence la libération de jeunes criminels.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. Jean-Louis Bonamy, Bruno Poncet, Flora Guebali, voilà nos trois GG. Vous intervenez au 32-16, bien sûr.
Et là, on va. Bruno Poncet m'a annoncé son ralliement à Édouard Philippe.
Il a dit que
les arguments de Laurent Wauquiez l'avaient touché.
Ouais, il l'avait convaincu et que du coup, première victoire de Laurent Wauquiez qui a amené Bruno Poncet.
On en parlera. Un grand rassemblement qui va de Bruno Poncet à Laurent Wauquiez.
On en parlera.
À Sarah Knafo, en passant jusqu'à Sarah Knafo.
On en parlera tout à l'heure à 11h justement de Laurent Wauquiez qui se rapproche d'Edouard Philippe au détriment de Bruno Retailleau, pourtant de sa famille politique LR. Est-ce que c'est de la stratégie ou est-ce que c'est de la traîtrise? Ça sera tout à l'heure à 11h. Mais on va s'intéresser d'abord à ces mineurs accusés de crimes bientôt libérés. En fait, c'est vrai que ça ne tombe pas au meilleur moment pour le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui veut montrer que la justice peut être rapide et efficace. Et là, on est face à un problème de calendrier législatif.
Oui, là, c'est pas la faute des magistrats, mais c'est bien la faute du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui a raté le délai qui avait été imposé par le Conseil constitutionnel. Il avait un an pour changer les choses. Bah, la date est passée. Et donc, les mineurs actuellement en détention provisoire et renvoyés depuis hier aux assises pour des crimes vont devoir être remis en liberté à cause de cette faille juridique. C'était donc à compter d'hier. Alors, ce sont des mineurs qui sont suspectés d'avoir commis des faits
criminels entre 16 ans et 18 ans. Ils devront être remis en liberté dès lors que les juges auront ordonné leur renvoi devant les assises. Alors, ça ne veut pas dire qu'ensuite, ils ne vont pas être condamnés et peut-être condamnés à des peines de prison, mais ben, le temps de ce renvoi devant les assises, ils seront libres. Alors, bien entendu, Gérald Darmanin essaye de réparer sa boulette. En urgence, il a fait porter un amendement à une loi examinée bientôt à l'Assemblée nationale. Le vote est prévu en juillet pour une application à la fin de l'été. Mais enfin, ça la fout mal, puisqu'on a le même Gérald Darmanin qui se présente comme étant le ministre de l'efficacité, qui nous explique qu'il faut aller plus vite, qui a sermonné les magistrats, sans doute à juste titre, dans l'affaire Ghana, et qui là, on s'est aperçu que dans son ministère, on n'avait pas le job, on n'avait pas fait le job.
Ah bon ? Bah moi, écoute, c'est vrai, mais je trouve quand même là un peu dur avec Gérald Darmanin. Parce que si on t'écoute bien, à l'origine, le problème, c'est le Conseil constitutionnel. C'est les décisions aberrantes du Conseil constitutionnel, de gens que personne n'a élus. Je rappelle qu'il y a plus que seulement 36% des Français, d'après un sondage, qui ont confiance dans le Conseil constitutionnel. Donc moi, je suis pour la suppression immédiate et totale du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, pour la énième fois, nuit aux intérêts de la France et met les Français en danger. C'est ça le vrai problème. Si tu veux, la faillite de Darmanin, elle vient secondairement.
D'accord, mais il doit faire avec. Et il avait un an, il l'a pas fait. Pourquoi ? Pour personne lui l'a alerté. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans son ministère ?
Moi, suppression du Conseil constitutionnel. D'accord. Voilà une vraie mesure.
C'est le garant des lois, c'est sûr, t'as raison.
C'est le garant de que dalle. C'est le garant d'une idéologie.
En attendant, au lieu de laisser de cirer les pompes à Darmanin,
et Olivier, tu vas aller à lui cirer les pompes. J'ai un problème avec le Conseil constitutionnel.
Il avait juste un an pour légiférer. Ouais. Il avait un an à demander à son pote le cornu de faire un truc international. En fait, Darmanin, il est peut-être plus fort là. Et puis à part les médias pour un patal ou d'autres côtés, juge. Parce que lui dire des gens pour lui. Et ben là, les mecs,
c'est un qu'ils ont foiré.
Là, je pense que c'est lui qui a foiré. Que à un moment donné. La responsabilité, c'est quand même celui qui est au bout du ministère, et au bout du ministère, c'est lui. Hein. Et là, je trouve que à la période où on est, on n'arrête pas de nous expliquer qu'il y a une ultra-violence chez les jeunes, de pas réussir à légiférer et à faire quelque chose pour maintenir en détention des gamins qui sont potentiellement dangereux pour les autres et pour eux-mêmes. Bah moi, je comprends.
Et là,
pas
qu'ils sont impliqués dans des affaires de viol, de meurtre, parce que c'est les assises. Hein. Donc, puisqu'on parle de Conseil constitutionnel, une citation du général de Gaulle, qui est le père de la Ve République et de notre Constitution. Le général de Gaulle disait, il y a trois choses importantes. La France, l'État et le droit. Les deux, dans l'ordre, les deux plus importantes, c'est les intérêts de la France, puis les intérêts de l'État. Et il ne faut prendre en compte les intérêts du droit qu'en troisième position, à condition qu'ils soient compatibles avec les intérêts de la France et de l'État, qui doivent toujours être prioritaires sur le droit.
Supprimons l'État de droit.
C'est ce que disait le général de Gaulle. C'est ce que disait le général de Gaulle, l'homme de la Résistance, le fondateur de la 5e
République. Qui était dedans d'imposer une dictature en 68 parce qu'on n'arrivait pas, il était.
Oui, mais personne l'écoutait. Le problème du Conseil constitutionnel, c'est qu'il semble parfois outrepasser ses droits.
Il les outrepasse complètement.
Il semble vouloir faire de la politique, d'autant plus quand on nomme à la tête.
Moi, j'enverrai un bataillon de paras fermer les portes du Conseil constitutionnel.
Quand on nomme à la tête de ce produit, c'est Richard Ferrand, qui est le président du Conseil constitutionnel, sans aucune compétence particulière. C'est un ami du président. Ça, finalement, sa compétence la plus importante, c'est d'être un ami du président. Voilà. C'est ça qui fait du mal aux institutions, à mon avis.
Non.
Tu viens de dire, comme quand on nomme Najat Vallaud-Belkacem qui n'a aucune compétence.
Bien sûr, c'est de la faute de Najat Vallaud-Belkacem qui n'a aucune compétence,
qui n'a aucune compétence pour analyser les finances publiques et qui est nommé à la Cour des comptes. Tu vois, c'est ce genre de nomination qui abîme les institutions.
On en parlera tout ça parce qu'en fait Macron va partir et il aura nommé que des gens à lui partout dans toutes les instances. Je peux te garantir que le macronisme va survivre à Macron grâce à ça. Hein.
Oui, et
c'est hyper dangereux pour la France. Là, sur la liberté de penser, la liberté d'agir, on est mal barré.
Ben oui, mais ça, malheureusement, on a donné ce pouvoir de nomination au président. C'est peut-être une erreur, d'ailleurs, de la Ve République. Le président a trop de pouvoir.
Alors, Flora.
Trop de pouvoir de nomination.
Moi, ce qui me fascine et qui m'inquiète, c'est que les gens comme Gérald Darmanin ou Bruno Retailleau, qui jouent dans les médias les petits shérifs, à dire avec nous, c'est l'ordre, c'est l'autorité et on va être des durs à cuire, et ben, c'est eux qui, dans le même temps, détricotent ce qu'eux-mêmes ont proposé avant. De ce dont on parle, c'est qu'il y a l'Office des mineurs qui avait pour but d'être un service d'enquête un peu mieux destiné à lutter contre les violences faites aux enfants et aux ados. Il a été créé par Gérald Darmanin en 2023. Et là, son budget baisse, donc il va être détruit par Gérald Darmanin en 2026.
C'est pas, parce que pour l'instant, le budget n'a pas été voté. C'est le prochain budget.
En tout cas, leur proposition, c'est de baisser le budget
à mon avis,
d'un office qu'ils ont créé.
Ils vont peut-être revenir en arrière. Là.
Bah, en tout cas, c'est leur proposition.
Parce qu'il faut payer
moi,
les
je juge sur proposition. Donc,
les gens cotisaient.
Non, mais attendez, parce que ce dont on parle ici est extrêmement grave et en même temps extrêmement symbolique de l'époque qu'on vit. Il y a un ministre qui. C'est exactement comme ce qui s'est passé avec le Fonds d'adaptation au réchauffement climatique, lancé en 2023, baissé quelques années après. En fait, les politiques aujourd'hui, ils détricotent en permanence. Et donc, on est garanti de n'avoir aucun progrès dans aucun sujet, jamais. Sauf que pour se préparer aux crises et réparer les défaillances majeures de l'État, comme par exemple la protection des enfants, au hasard, il va falloir qu'on fasse une politique qui marche. Donc, non mais juste, excusez-moi, on a un problème systémique avec ce truc quand même.
Pour revenir quand même à notre histoire, donc à ces mineurs qui sont quand même des mineurs renvoyés aux assises, donc oui, c'est pour des faits très graves,
très grave.
C'est des mineurs criminels,
viol, meurtre,
c'est pas le petit Hamza. Alors là, le porte-parole de la chancellerie du ministère de la Justice essaye de dire attendez, on a d'autres possibilités, on peut les placer sous contrôle judiciaire le temps de leur procès, on peut les mettre en centre éducatif fermé, voilà, donc on peut essayer quand même de pas les renvoyer dans la nature.
Mais on n'a qu'à les maintenir en détention et s'en moquer complètement de l'avis du Conseil constitutionnel et aller au bras de fer, voilà.
Il y a des lois, faut respecter la loi en France, sinon demain c'est le chaos. Moi, je serais pour l'anarchie, mais en fait, à un moment donné, il faut savoir ce que tu veux. Toi, le représentant, il faut mettre la loi partout, il faut être durcir. Lui, tu es en train de dire qu'on ne va pas respecter la loi.
Bah, t'as on en revient au même. Curieusement, quand il faut maintenir des gens en détention, notre ami Recep Tayyip Erdogan n'a pas ce problème. Voilà, je constate.
Oui, bah, c'est enfin,
je ne suis pas sûr que
quand
la Turquie
soit le modèle.
Quand on ne
vit pas dans un état de droit.
Eh ben, je préférerais.
Mais oui, non, mais ça, c'est la thèse de Jean-Loup. Quand on ne vit pas dans un état de droit, la vie est plus belle. Bah, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que
bah, ouais, quand tu auras été trucidé par un mec de 17 ans qu'on aura libéré,
tu seras content. Tu vois, tu dis que le général de Gaulle, sa priorité, c'est la France. Et ben, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde.
Bah oui, mais je
et
vois pas en quoi ça remet en cause.
Ce
qui remet en cause ta liberté, c'est de te faire violer et tuer par un mec de 17 ans qu'on va
être lâché. La liberté de la France, c'est d'être le pays des droits de l'homme, c'est d'être le pays de l'état de droit où les hommes naissent et demeure libre et égaux en droit, c'est-à-dire que il y a les règles du procès équitable, c'est-à-dire que on
mais
respecte
je vois pas en quoi les
la présomption
en détention, ça remet
d'innocence. Il y a des espèces de fachos de pacotille sur les réseaux sociaux qui nous expliquent que des États non démocratiques sont en fait des grandes démocraties parce qu'on écoute le peuple. Mais tous ces gens-là, ils sont en train de détruire l'idée même de la France. Qu'est-ce que la France dans la bouche du général que t'invoques si souvent? La France, c'est une idée. La France, c'est une vision. La France. C'est l'universalisme. Et qu'est-ce qui est le principe de base de cette France? C'est l'état de droit. Et l'état de droit, ça veut dire que tout le monde peut être jugé avec un procès équitable. Ça veut dire qu'on respecte la présomption d'innocence. Mais je réponds juste à Jean-Loup.
La France,
j'invente pas n'importe quoi. Je connais aussi bien que toi ce qu'a raconté le général.
Il y a des dizaines de citations de lui contre le trop grand pouvoir donné au droit et au juge.
Non, mais bon, ça pose un problème quand même.
Non, mais bien sûr que la vie, elle est plus belle en Tunisie, à Singapour ou en Turquie.
Non, mais Flora, sans faire la comparaison.
Mais oui.
Non, mais sans tomber dans les travers de Jean-Loup Bonamy qui va trop loin.
Les caricatures, tu veux dire.
Les caricatures. Néanmoins, on se pose des questions. C'est vrai que quand Conseil constitutionnel ou le Conseil d'État empêche de faire passer des lois qui ont été votées par les représentants du peuple.
Des gens non élus.
Qui ont été votés par des représentants du peuple, qui étaient dans des programmes que les gens ont validés.
Des gens non élus sortis de nulle part.
C'est quand même un problème démocratique. Plein d'exemples récents où effectivement c'est des mesures plébiscitées par les Français et ces mesures on peut pas les prendre parce que le Conseil constitutionnel qui rend des décisions qui sont des décisions forcément subjectives ce sont des hommes et des femmes donc
voilà, vous c'est pas Dieu
voilà donc peut-être qu'il faudrait faire plus de référendums d'ailleurs le référendum c'est l'occasion de passer au-dessus du Conseil constitutionnel et c'est prévu par la 5e République
mais moderniser la démocratie enfin la 5e République voire la transformer
Emmanuel Macron n'a fait aucun référendum en 10 ans.
Si, voilà. En fait un,
et Hollande et Sarkozy non plus avant lui.
Voilà. Ouais, parce qu'ils sont traumatisés par suite 2005.
Non, parce qu'ils n'ont pas le leadership.
C'est quand même un problème.
Parce qu'ils ne sont pas démocrates jusqu'au bout. Emmanuel Macron, je suis désolée, le vrai débat qu'on aurait dû avoir, c'est sa démission, et ça depuis 2022 plus un jour. Et non, je ne suis pas d'accord. Le quinquennat de 2017, il avait une majorité.
Le problème, c'est quand même que...
Il a passé des lois qui sont imparfaites, mais il avait une assise démocratique. Je suis désolée, il y a un débat qu'on n'a pas mis sur la table. Emmanuel Macron, il aurait dû démissionner depuis au moins 2 ans, depuis au moins la dissolution de l'Assemblée.
Il est
11 ans.
Il
s'en sort. Il est malin. Moi, Emmanuel Macron, il me fascine. Il est intelligent.
Tu as raison. Il aurait dû démissionner.
Il ne devrait plus être là.
S'il avait été gaulliste, il serait parti.
Et je comprends pas. S'il avait été gaulliste, il serait parti.
Oui, il aurait fait le gouvernement de Bichard de venir à la Comte de Paris pour envahir Paris.
Parce que, excusez-moi, la grande politique d'Emmanuel Macron, c'est d'envoyer une grenade dégoupillée dans les jambes de ses adversaires, pour le citer.
Ou non, de ses amis.
Ce qui m'étonne, c'est pourquoi ses adversaires se laissent dégoupiller par la grenade, finalement. Où sont-ils? Les adversaires, pourquoi? Parce qu'ils veulent sauver leur siège de député pour sauver leur petit salaire et la pension alimentaire qu'ils donnent à leur femme. C'est quoi? Je comprends pas en fait.
Dans un instant, Mélenchon est un fou furieux à neutraliser d'urgence. Qui dit ça? C'est Arnaud Montebourg. C'est dans un podcast qui s'appelle L'Orphelinat et qui est mené par Flora Guébali qui est avec nous aujourd'hui.
C'est bien Mélenchon, plus qu'un podcast, c'est un projet politique.
Un fou furieux à neutraliser d'urgence. Est-ce qu'il a raison ou pas? Il est 11h25, vous venez en parler avec les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les grandes gueules vous donnent la parole, comme tous les jours au 32-16, bien sûr. Bruno Poncet, Jean Le Bonamy, Flora Guébali, c'est eux qui discutent avec vous en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. On va s'intéresser au nouveau podcast que vient de lancer Flora Guébali. Et moins qu'on puisse dire, c'est qu'il fait le buzz. Alors, avant de l'écouter, cette sortie d'Arnaud Montebourg, explique-nous ce que c'est en 30 secondes que ton podcast L'Orphelinat, alors qu'on trouve sur Instagram.
Alors,
notamment.
Il y a quelques mois, j'étais devant ma télé et j'ai entendu Arnaud Montebourg répondre. La question qui lui était posée, c'est est-ce que vous êtes de droite ou de gauche? Enfin, vous en êtes où dans votre vie politique? Et il a répondu, en fait, je suis orphelin parce que je me retrouve plus dans personne. Et c'est vrai, quand il a dit ça, ça m'a beaucoup marqué. Parce que je me suis dit, mais moi aussi, je suis orpheline. C'est quoi les idées aujourd'hui qui me touchent? C'est qui les leaders qui les portent que j'ai envie de suivre? Et je me suis dit, on est à un an de la présidentielle. Et en fait, on est, je pense, une majorité de Français à être orphelins. J'ai vu après un sondage dire que 53% des Français ne se retrouvent dans aucun candidat. Et donc, je me suis dit, bah il est où le camp majoritaire en France? Il est dans l'orphelinat. Et donc, je me suis dit, on va créer l'orphelinat. Un espace Oliver de Twist. Conversation et tu dis que ça a fait le buzz, c'est vrai, on a passé 1 million de vues sur les premières 24 heures, ce qui est assez dingue, mais en fait mon but, moi, c'était pas de faire le buzz, c'était d'amener cette idée dans le débat public qui est de dire bah aujourd'hui on est une majorité à être orphelin, donc venez dans mon orphelinat, on va discuter tous ensemble. Et surtout Arnaud Montebourg, il dit que bon, il veut pas retourner en politique, c'est son sujet, mais il dit que lui il s'est engagé pendant 18 ans dans la vie publique et que il a pas réussi à imposer ses idées. Donc on va essayer ensemble de contribuer au débat d'idées pour se préparer à l'élection présidentielle.
Justement, c'est de cette élection présidentielle qu'il parlait dans ton podcast, Flora, et de Jean-Luc Mélenchon.
Il veut être le chef de l'insurrection future à venir. Il a mis son col Mao et il va délivrer les sermons sur la montagne, il va prophétiser le pire pour en être un, l'agitateur, et deux, le réparateur. C'est un fou furieux à neutraliser d'urgence. Dans l'intérêt de la France. La gauche, tout ça, le je sais pas quoi, la Nouvelle France, tout son délire, tout ça, mal digéré. Voilà mon point de vue.
Alors, est-ce qu'il a raison, Arnaud Montebourg? C'est au 32-16 que vous venez en parler avec les gens, avec les grandes gueules. Jean-Loup Bonamy, Bruno Poncet. Bruno.
Moi, ce que je vois, c'est que Mélenchon, c'est Social Trade qui en parle le mieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment que tous ces gens, alors lui, Glucksmann, Hollande, allument Mélenchon, en fait, au lieu de servir.
Ils l'ont bien connu parce que
Montebourg était au PS ensemble.
Pendant très longtemps.
Voilà.
Pas
et donc, ça, c'est ça. Mélenchon. Moi, ce que je vois, c'est que plus ils en parlent et plus ils le critiquent, plus ils le renforcent. Voilà. Parce qu'en fait, les gens veulent plus de ces gens-là. La population ne veut plus de ces gens-là qui sont au pouvoir. Et moi, je trouve aujourd'hui, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'au lieu que la gauche, cette gauche molle, là, qui essaierait plutôt d'influer le programme de Mélenchon en l'écrivant avec lui. J'en ai parlé avec tous ceux qui sont venus là, en off et en on, j'aurais tous demandé, écrivez quelque chose en commun, parce que les Français ont besoin d'une gauche unie pour aller au second tour.
Mais il n'y a pas de...
Attends, j'ai pas fini. T'as le temps de parler, on en verra tout à l'heure. Moi, ce que je vois juste, c'est ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai un vrai sujet avec ça. C'est qu'ils sont en train de l'allumer, mais pour être élu au second tour des législatives, vous avez besoin de lui. Donc ça, c'est autre chose. Mais par contre, moi, ce que je vois quand j'entends quelqu'un comme Montebourg et tous les autres, ça veut dire qu'aujourd'hui, leur ennemi, c'est Mélenchon. Ok. Donc ça veut dire que le RN n'est plus leur ennemi. Et ça veut dire que quand au second tour, ils auront RN face à Édouard Philippe, Attal, Retailleau, ils s'y retrouveront. Ah ben bah ok, d'accord, moi j'entends bien. Mais aujourd'hui, ça, cette gauche-là, elle est naufragée.
Mais ça, c'est la propagande de LFI que tu répètes comme non, un bon soldat.
Pas de contrairement à toi, je suis encarté personne. Moi, j'étais aucun. Aucun meeting de personne.
Elle n'est pas encartée.
Bah, moi, ça fait 20 ans
que j'ai aucun meeting de personne parce que moi, je garde mon indépendance. Je le souhaite à tout le monde.
Tu peux aller à un meeting et
non, moi je crois pas. Quand tu as un meeting, déjà, tu conçois.
Ah bon, excuse-moi, ah bah si, bah tu conçois. Bah
voilà, maintenant tu reçois.
Un meeting, toi, politique, combien?
Moi, je suis journaliste.
Ah bah ouais, bah moi, tu vois, pour être une
fois, journaliste.
Je vais cautionner personne. J'irai nulle part.
Moi, je suis pas journaliste et il y a plein de politiques qui m'intéressent. Et d'ailleurs, je cherche une maison mère pour la présidentielle parce que, comme je l'ai dit, je suis orpheline.
Attendez, le problème,
je veux répondre à Bruno. Le problème, Bruno, c'est que aujourd'hui, LFI diffuse une propagande qui est c'est moi ou le pire, à savoir le RN. Il faut desserrer les taux, parce que Arnaud Montebourg, ok, c'est cet extrait qui en rend buzzé, mais on est resté une heure à avoir une conversation sur l'Europe, sur la dette, sur la transition écologique et sur la souveraineté. On a discuté de comment on recrée un programme décent et qui fonctionne. Ce qu'il dit aussi Arnaud Montebourg, c'est que Mélenchon à l'Élysée, en une heure ça se casse la gueule, en une heure ça s'effondre. Et moi je suis d'accord avec ça. Et donc bien sûr que je suis pour l'union de forces de gauche ou en tout cas social-démocrate ou en tout cas progressiste. Mais Mélenchon, il n'est pas de gauche, il n'est pas démocrate et il n'est pas progressiste. Alors, donc en fait, je ne m'allie pas avec Alain Soral, c'est tout. Et donc je pense que c'est clair et net. Et bah je pense, et bah
Jean-Luc Mélenchon,
c'est Alain Soral. Je ne m'allie pas avec Alain Soral, au même titre que je ne m'allierai jamais avec le RN. Très simple, basique.
Jean-Loup.
Alors, moi, je suis un peu gêné parce que, de manière générale, j'ai l'occasion de le dire souvent ici, je suis un grand fan d'Arnaud Montebourg. Ses positions économiques sur le redressement productif.
Puis t'aimes le miel.
J'aime le miel, tout à fait. Le redressement productif, le made in France, la réindustrialisation, la souveraineté, la résistance face à l'Allemagne, qui détruit nos intérêts. Donc tout ça, je trouve ça très bien. Pour moi, Arnaud Montebourg est l'un des hommes politiques les plus intéressants. Toutefois, dans ce podcast, je considère qu'il a fait une erreur. Et moi, je considère plusieurs choses. Un, qu'il faut pas attaquer Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, soit on est contre lui, soit on est pour lui. Si on est pour lui, il n'y a pas de raison d'attaquer. Si on est contre lui, faut pas l'attaquer non plus parce que ça le renforce.
Ah bon, justement, bah non, donc on dit rien. C'est juste curieux.
Eh ben exactement. Moi, je ferais le vide devant l'adversaire si j'étais. Ah, ça serait beaucoup plus intelligent de faire le vide devant lui, de le laisser s'engouffrer plutôt que de rebondir à chaque fois parce que comme il l'a dit, c'est de l'agit-prop. Bah justement, si t'attaques les mecs qui font de l'agit-prop, c'est exactement ce qu'ils veulent et c'est exactement ce pourquoi ils font ce qu'ils font. Mais bon, Arnaud Montebourg n'a pas été à la bonne école du trotskisme, donc il a pas compris tout ça. Il a pas eu la formation, contrairement à Jean-Luc Mélenchon.
Faut le laisser parler.
Et oui, il faut le laisser parler, exactement.
Donc on le laisse dérouler et on fait pas d'opposition.
Ensuite, le vocabulaire est... Laisse-moi parler, t'as parlé, sister. Donc, il y a également le cas de dire il est à éliminer d'urgence. Là non plus, le vocabulaire ne va pas.
La démocratie,
parce que,
c'est pas ça.
Voilà, soit on peut dire c'est pas démocratique. Ah, mais il a pas dit politiquement.
Ah, non.
Donc, soit... Déjà, t'es pas démocratique. Et puis ensuite, là encore, l'adversaire peut se victimiser. Donc, c'est pas du tout le bon vocabulaire à avoir. Et enfin, il dit Nouvelle France, c'est des délires. Excuse-moi, moi, je suis pas d'accord avec le concept de Nouvelle France. Je l'ai combattu ici, mais c'est pas du tout du délire. C'est intelligent, c'est bien trouvé, Nouvelle France, même si je suis contre. Ça pose la question de l'identité, qui est une question centrale, que Sarkozy, conseillé par Patrick Buisson, avait posée dès 2007. Donc là, Mélenchon, il la pose, la question de l'identité. Pas comme je le voudrais, moi, mais il la pose. Donc, c'est vraiment la manière dont vous, les petits gens de gauche bien propres, sosdem et pro-Israël, vous posez les choses en criant « Ah, je ne m'allierai pas avec Alain Soral !» Mais en fait, vous faites le jeu de Mélenchon, vous lui apportez des voix.
Jean-Loup,
qui t'a dit que j'étais pro-Israël?
Non, mais parce que c'est ça le nœud de la question sur Arnaud Montebourg. Pardon, sur Mélenchon, c'est ça le nœud de la question.
C'est Israël le nœud de la question? Je crois pas.
Bah oui, tu l'as dit toi-même, je m'aligne pas avec Alain Soral, tout est ramené à ça.
Mais oui, mais le problème d'Alain Soral, c'est pas sa position sur Israël. D'ailleurs, je la connais pas, je l'ai jamais entendu. Le problème d'Alain Soral, c'est qu'il est un antisémite. C'est qu'il est un antisémite notoire, condamné pour antisémitisme.
Et Mélenchon, il était condamné pour antisémitisme.
Ma position sur Israël, je te l'ai jamais donnée, en fait.
Mais Mélenchon, il a été condamné pour antisémitisme.
En revanche, ma position sur l'antisémitisme, elle est claire et en fait, elle est républicaine et démocrate. Parce que je suis universaliste et que je me bats contre toutes les discriminations.
Donc
en fait, aujourd'hui, pour moi, quelqu'un qui est antisémite, ça veut dire que demain il sera homophobe, après-demain il sera raciste, après-après-demain il sera sexiste, Ah bah non, ils l'ont déjà été avec Adrien Quatennens, qu'ils ont réhabilité comme un seigneur, alors qu'il avait quand même giflé sa femme et qu'il avait été condamné pour ça. Oui, il a été réhabilité et applaudi par Madame Mélenchon, Sophia Chikirou, qui a dit à une amie à moi qu'elle allait lui faire le sourire kabyle si elle continue à faire de l'humour. Donc ces gens, quand en fait le principe que je défends le plus en politique et pour lequel je me suis engagée, c'est que quand il y a une dérive, il y a plein de dérives. Donc quand quelqu'un commence à dire un truc contre les uns ou contre les autres, ça veut dire qu'à la fin, ça sème le chaos. Et donc la base de la République, le level 1 de la République, c'est qu'on ne tolère aucune discrimination, ni envers les uns, ni envers les autres. C'est ça ma position. Et c'est pour ça que je ne serai jamais contre LFI.
Excuse-moi, mais
en revanche, sur Israël, j'ai une position très critique. J'ai pas attendu Rima Hassan pour critiquer Netanyahou. Et j'ai pas attendu LFI pour me renseigner sur ce qui se passe au Moyen-Orient, qui est un peu plus complexe que ce qu'ils nous font croire.
On va aller dans le Cher.
La capitale.
De Saint-Satur.
Ah oui.
Est-ce que vous connaissez bien Bruno Poncé?
C'est Sancerre.
Bonjour Christine.
Bonjour Alain, bonjour toute l'équipe.
Attention,
bonjour.
Si vous avez
Rapprochez-vous du téléphone.
Si vous avez le haut-parleur, enlevez le haut-parleur. Si vous avez le haut-parleur, Christine.
C'est...
Non, je vous en prie.
Christine, est-ce que vous êtes de la Nouvelle-France?
Alors, dites-moi que pensez-vous de ce que dit Arnaud Montebourg?
Alors, j'espère que je ne vais pas couper Alain. Hein, parce
on va essayer, allez-y.
On va essayer.
Alors moi j'en peux plus, c'est ce que je disais à Alexandre au téléphone, j'en peux plus depuis mai 2017 qu'on crache, qu'on massacre, qu'on veut la mort politique voire physique de Mélenchon. Moi je suis pour Besancenot, j'ai plus de 71 ans, voilà, j'étais lutte ouvrière, etc.
Ah oui.
Je voterai les filles, parce que les fous furieux, c'est Borne Thatcher avec ses 13-49-3. Ouais. C'est Macron, c'est Darmanin accusé de viol. Laura Abba, comment il s'appelle le monsieur handicapé, c'est pas parce qu'il est handicapé.
Abad.
Voilà, il est revenu à l'Assemblée nationale. Il a violé. Moi, j'en peux plus de tout ça. Et voyez-vous, moi, je défends la Palestine. Mes amis juifs qui ont de la famille à Tel Aviv défendent la Palestine et crachent sur Netanyahou. Vous savez ce qui se passe dans les prisons en Israël actuellement? Il y a des viols. Vous savez que les enfants sont kidnappés par la Zahal, etc. Donc, je vais pas aller dans le détail.
Attention.
Ça continue le génocide. Et Mélenchon,
mais Christine, personne ne parle de ce qui se passe en dehors de France, en fait.
Vous aurez tout le temps.
Allez-y, parce qu'il nous reste 40 secondes.
Je suis pour la 6e République. Moi, vous voyez, je suis en train de crever. Pas crever, mais je touche du bois. Je suis dans une passoire thermique. J'ai 38 dans mon salon. Voilà. Et Mélenchon, et les filles.
Mélenchon va vous rafraîchir.
Mais non, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Vous attaquez pas comme ça le RN, Macron.
Ah, si. Oui.
Dans cette émission, on ne peut pas dire qu'Emmanuel Macron.
Il y a 5 minutes, j'étais en train de dire qu'Emmanuel Macron devait démissionner. Donc si vous nous écoutez, on les attaque autant.
Non, mais c'est un peu bizarre de traiter Mélenchon de fou furieux et juste après de dire qu'il faut l'éliminer. C'est un peu contradictoire, c'est un peu
impropriement. C'est Montebourg,
Montebourg, il a dit à neutraliser dans l'intérêt de la France.
Bah,
neutraliser, c'est une neutralisation démocratique, politique.
Non, ça, il l'a pas précisé.
Il l'a pas dit, c'est de mauvaise foi.
Dans un instant, on va s'intéresser à Laurent Wauquiez qui trahit Bruno Retailleau pour aller vers Édouard Philippe.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.